France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'explosion du port de Beyrouth. Le 4 août 2020, aux alentours de 18h, des habitants de la capitale libanaise aperçoivent de la fumée qui s'échappe de la zone portuaire. C'est alors qu'une explosion se produit, puis une seconde, si puissante qu'elle pulvérise le port de la ville et ses abords, les quartiers du centre-ville notamment, tuant 235 personnes et en blessant 6500 autres. Des milliers de vies sont brisées, la capitale libanaise est défigurée. À l'origine de l'explosion, des centaines de tonnes de nitrate d'ammonium, un produit dangereux et toxique entreposé sans aucune mesure de précaution dans le port. Alors, qui est responsable de la tragédie? Les Libanais réclament que justice soit faite. Mais nous sommes au Liban, un pays où l'état de droit est un mirage et où la classe dirigeante est gangrénée par la corruption. Symbole du dysfonctionnement d'un état en faillite, l'explosion du port de Beyrouth, c'est l'histoire d'une catastrophe annoncée et demeurée inexpliquée. Et pour les Libanais, c'est la catastrophe de trop dans ce pays ravagé par les guerres et les violences politiques depuis 50 ans. Notre invité aujourd'hui, Ziad Majed, politologue franco-libanais, auteur de plusieurs ouvrages sur le Proche et le Moyen-Orient, dont La Révolution orpheline, publié en 2014 chez Actes Sud, et Dans la tête de Bachar al-Assad, publié également chez Actes Sud en 2018 et qui vient d'être réédité. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Patricia Chéra, rédaction en chef, Franck Cognard. Chargé de programme, Rebecca Donnante. Réalisation, Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
Beyrouth, mardi 4 août 2020. En cette fin de journée estivale, les automobilistes engagés sur la voie rapide qui longe le bord de mer, au cœur de la capitale, s'inquiètent de la fumée qui se dégage des docks. Ce port de Beyrouth, c'est la fierté des Libanais, symbole de l'ouverture sur le monde et de l'héritage phénicien qu'ils s'approprient, à tort ou à raison. Modernisé dans les années 90, au sortir de la guerre civile qui a duré 15 ans et qui a détruit le pays, c'est l'un des plus grands ports de Méditerranée orientale. Avec ses 4 bassins étalés sur plus d'un kilomètre carré et ses 16 quais de déchargement, le port de Beyrouth, principale porte d'entrée des marchandises dans le pays, est avant tout son poumon économique. Il assure depuis toujours la prospérité de la capitale, comme en témoigne le dynamisme des quartiers historiques populaires alentour. Ce jour-là, un incendie se déclare donc au niveau de l'entrepôt numéro 12, situé en bord de bassin, sur le quai où sont entreposés les produits classés dangereux, juste derrière les silos à grains. Alerté à 17h55, une équipe de 9 pompiers et un ambulancier se rendent sur place pour combattre l'incendie. Il est 18h07 lorsque la première explosion a lieu, puis une seconde dans la foulée, puissante et dévastatrice. L'énorme champignon de vapeur blanche qui se forme ressemble à celui d'une bombe nucléaire. Il laisse place à une colonne de fumée rouge qui s'élève à 750 mètres dans le ciel. Tandis que dans un bruit assourdissant, l'onde de choc pulvérise en moins de 3 secondes le port de Beyrouth et souffle la moitié de la capitale.
Les habitants croient d'abord filmer un simple incendie, quand tout à coup, une énorme déflagration. Quelques secondes plus tard, Beyrouth est noyé dans la poussière, la fumée orange et opaque. L'onde de choc est si forte qu'une immense vague se forme sur l'eau.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?
Dans la ville, ceux qui filment tombent à terre. Des bâtiments sont éventrés, des vitres explosent.
Sans réaliser ce qui allait se produire, des habitants filment l'instant apocalyptique avec leur smartphone. Les images stupéfiantes de la double explosion circulent sur les réseaux sociaux et sont retransmises sur toutes les chaînes de télé. Le monde entier a les yeux rivés sur la capitale libanaise qui a sombré dans un chaos total. Et pour cause, c'est l'une des explosions non nucléaires les plus graves de l'histoire. La troisième plus grosse dans une ville en termes de déflagration après Hiroshima et Nagasaki, c'est dire. L'onde de choc est si puissante qu'elle est ressentie jusqu'en Turquie et à Chypre, à plus de 200 km de là. À Beyrouth, dans un rayon de 5 km autour de Ground Zero, c'est la stupeur, et l'incompréhension.
C'était un massacre, un vrai massacre. J'ai vu des gens crier, des gens couverts de sang, des maisons détruites, des verres brisés partout dans les rues. Vous m'auriez dit que c'était un tsunami ou un nouveau Hiroshima, je vous aurais cru. Je ne comprenais rien à ce qui se passait.
C'était vraiment effrayant. Tout s'effondrait autour de moi. À ce moment-là, je ne savais plus à quoi m'attendre. J'ai crié en appelant à l'aide. Je perdais du sang, je ne savais plus quoi faire.
Dans le chaos, les ambulances, sirènes hurlantes, tentent de se frayer un chemin pour se rendre sur les lieux de l'explosion. Autour de la zone portuaire, les gravats d'immeubles éventrés et les carcasses de voitures écrasées obstruent les voies d'accès. Sur les quais de déchargement, il ne reste que des bâtiments et des conteneurs. Rien d'autre que des amas de ferraille et de béton enchevêtrés. Les pompiers qui étaient affairés à maîtriser l'incendie sont tous portés disparus. Des casques bleus, à bord de leur navire amarré et fortement endommagé, sont grièvement blessés, tandis qu'un autre navire est en flammes. Sur la bretelle autoroutière en surplomb des bassins, des dizaines de voitures ont été soulevées, retombant parfois à pic sur la chaussée et blessant les passagers. Les secouristes retrouveront deux jours plus tard le corps d'un homme au volant de sa voiture repêchée dans le port. Dans les rues des quartiers adjacents, des blessés recouverts de sang et de poussière marchent, hagards, au milieu des décombres. C'est pire que la guerre, relate sous le choc de nombreux habitants. Il règne dans la capitale recouverte de cendres une ambiance de fin du monde. Tout est vision d'effroi. Des immeubles soufflés, des balcons effondrés, des stations-service détruites. Toutes les vitres ont éclaté à des kilomètres à la ronde. C'est simple. L'explosion équivaut à un tremblement de terre d'une puissance de 4,5 degrés sur l'échelle de Richter qui en compte 10, indique l'Observatoire jordanien des séismes. Traumatisé par les guerres et les attentats, chaque habitant a cru qu'une bombe avait explosé dans son propre immeuble. Et tous ont craint pour leur vie. Panique générale chez les habitants.
Les gens ont commencé à paniquer, à rentrer dans leur voiture pour fuir. Et moi, je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait de même au bout d'un moment. Et on m'a carrément donné des blessés dans la voiture. Donc je me suis retrouvée avec des filles blessées qui hurlaient, la jambe complètement ouverte. On était coincés dans le trafic, on klaxonnait, on essayait de faire... Il n'y avait toujours pas d'ambulancier, on ne comprenait rien. On nous disait que les hôpitaux étaient déjà saturés. Et donc on est resté un bon moment coincés dans le trafic. On a fait un premier hôpital, un deuxième hôpital, les urgences étaient bouchées, ils nous envoyaient complètement balader, ils nous disaient de partir ailleurs, de partir de Beyrouth, jusqu'au moment où j'ai pu trouver un hôpital pour les déposer. C'était le chaos total.
Des blessés sont soignés à même le sol, dans la rue, tandis que d'autres se dirigent par centaines, à pied, vers les hôpitaux de la capitale. Plusieurs d'entre eux ont été ravagés et ne peuvent pas accueillir les blessés. Les autres sont complètement saturés. Le flux continue à l'entrée des services d'urgence, où les secouristes sortant des cadavres des ambulances se mélangent aux brancardiers transportant des victimes parfois inconscientes. La confusion totale. Des gens montrent des photos de leurs proches, dont ils sont sans nouvelles. Des blessés sont épaulés par des proches eux-mêmes, portant des blessures à vif au visage et sur le reste du corps, pendant que d'autres patientent, assis ou allongés sur le sol, sans comprendre ce qui leur est arrivé. La détresse se lit sur tous les visages. Nous sommes en plein cauchemar. Face à l'afflux massif de blessés, le personnel soignant est submergé. Surtout que la catastrophe survient alors que nous sommes en pleine recrudescence de l'épidémie de Covid, épouvantable double peine. Au Liban, les hôpitaux manquent de moyens, de personnel, de médicaments et de sang pour les blessés. Les Libanais, qui pensent avoir connu le pire, font face à une situation aussi grave qu'inédite.
On a besoin de tous les groupes sanguins. On a pris le nom de tous les donneurs qui sont présentés aux banques de sang. On va les appeler pendant toute cette semaine. On sait qu'il y aura un besoin pendant toute cette semaine.
À l'intérieur, dans chaque recoin de l'hôpital, des blessés graves. Certains défigurés par la violence de l'explosion. Leurs blessures nécessitent des soins très lourds.
Situation très très difficile, oui. Inédite quand même. Inédite. Et même malgré que le Liban a connu beaucoup de guerres, nous avons vraiment cette fois-ci dépassé les limites.
Sur les réseaux sociaux, des dizaines de visages. Un mari, une épouse, un frère, une sœur, un fils, un ami, dont les proches restent sans nouvelles depuis l'explosion. Des groupes WhatsApp, secrets pour venir en aide aux victimes, apporter de la nourriture à ceux qui en ont besoin ou trouver un toit pour ceux qui n'en ont plus. Au moins, 250 000 personnes se retrouvent sans domicile, leur foyer n'étant plus habitable. Un premier bilan humain provisoire fait état de 78 morts et 4 000 blessés. Un bilan qui sera tristement revu à la hausse pour atteindre les 235 morts et les 6 500 blessés. Ce soir du 4 août 2020, Beyrouth est une ville brisée. Face au port incendié, le gouverneur de la capitale, venu constater les dégâts, ne peut contenir son émotion. Beyrouth n'a jamais vu ça, déclare-t-il aux journalistes, avant d'éclater en sanglots. La population meurtrie se demande comment ce nouveau désastre est arrivé. Eh bien, le nitrate d'ammonium, une substance utilisée pour les engrais, mais aussi pour les explosifs stockés dans le port, en serait la cause. La catastrophe n'est pas sans rappeler, en France, celle d'AZF, à Toulouse, où le 21 septembre 2001, 300 tonnes de nitrate d'ammonium ont explosé dans l'usine chimique, faisant 131 morts et 2500 blessés. D'ailleurs, trois procès plus tard, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué sa détonation. Mais ça, c'est une histoire française. À Beyrouth, dans les heures qui suivent la catastrophe, l'hypothèse de l'accident est avancée par les autorités. Direction du port et des douanes s'accusent mutuellement de négligence. Le Premier ministre, Hassan Diab, évoque lui quelques 2750 tonnes de nitrate d'ammonium entreposées dans un hangar du port depuis des années. Et il ajoute que les responsables devront rendre des comptes.
C'est un triste jour. Beyrouth est touché en plein cœur. Le Liban est frappé par une catastrophe. Oui, c'est une grande catastrophe nationale. Les scènes auxquelles nous assistons témoignent de la tragédie et de l'ampleur du désastre qui nous frappe. Beyrouth est en deuil et c'est tout le Liban qui fait face à la catastrophe. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne restera pas impuni. Les responsables paieront pour ce qui s'est passé. C'est une promesse aux martyrs et aux blessés. C'est un engagement de la nation. Nous établirons les faits au sujet de ce dangereux entrepôt en service depuis 2014.
Oui, mais un tel millefeuille de négligence n'est pas audible pour la population martyrisée. D'autant que des services de sécurité auraient alerté les autorités concernées sur le danger de la présence de nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth, préconisant son transport dans un endroit sûr. Le directeur des douanes, Badri Daher, déclare au journal local « Nous avons alerté la justice à 6 reprises, entre 2014 jusqu'à récemment, sur la nécessité de réexporter cette marchandise hors du pays. Mais la justice ne nous a pas écoutés. » Un autre quotidien dénonce le stockage de feux d'artifice dans le même entrepôt que le nitrate d'ammonium et affirme qu'une étincelle partie d'une opération de soudage de la porte de ce hangar numéro 12 serait à l'origine de la détonation. Le pays est en deuil et l'heure n'est pas à la polémique, mais la colère couve. Comment et pourquoi autant de substances explosives ont pu être entreposées sans précaution et aussi longtemps au cœur d'une ville de 2 millions d'habitants ? Dans la nuit, une lueur orange éclaire le ciel au-dessus du port. Ça veut dire que l'incendie fait toujours rage. Il faudra attendre le 14 août, soit 10 jours plus tard, pour que les derniers foyers d'incendie soient éteints. Tandis que les hélicoptères survolent la zone de désolation et que les sirènes des ambulances retentissent dans toute la capitale, les secours s'activent pour sortir les corps sans vie des immeubles détruits et les survivants coincés dans des décombres encore fumants. Des dizaines de personnes sont déjà portées disparues.
Les Beyrouth, min qalbi salamun li Beyrouth, wa qubalun lil bahr wal buyut, li sakhratin ka'annaha wajh baharin qadim. طعم نار ودخاني.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'explosion du port de Beyrouth.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Au petit matin, les habitants traumatisés prennent conscience de l'ampleur des dégâts. La solidarité est en marche, comme toujours au Liban. Munis de pelles et de balais, les nombreux bénévoles sont à pied d'œuvre pour déblayer les rues dévastées. La moitié de la capitale est un vaste champ de ruines. Beyrouth doit panser ses plaies.
C'est juste un choc incroyable. On essaye d'aider les gens, on les aide à retrouver leurs proches. On se soutient les uns les autres.
Tous ces bâtiments détruits. Maintenant, les gens n'ont plus ni maison, ni travail, ni magasin.
Dans cette course contre la montre, les équipes de secours se relaient nuit et jour pour retrouver les personnes portées disparues. Mais dans les immeubles soufflés, parmi leurs habitants, certains manquent encore à l'appel.
Je suis sûr que dans les immeubles qui sont tombés, il y a encore des gens qui sont dedans. Et ce quartier-là, il n'y avait que des vieux qui habitaient là. Il y avait beaucoup de personnes très âgées. Des personnes très âgées dont les membres de la famille sont à l'autre bout de la terre et qui peut-être essayent de les joindre et n'arrivent pas à les joindre.
Saisie par l'ampleur de la catastrophe, la communauté internationale accourt au chevet du pays des cèdres. La plupart des pays de la région répondent présents. La Turquie, les pays du Golfe, l'Arabie Saoudite et l'Iran, qui jouent un rôle majeur dans la vie politique libanaise à travers le Hezbollah, on le sait, envoient de l'aide médicale et du matériel. Israël a même offert son aide. Et des sauveteurs russes sont arrivés dans la nuit, par avion. Les États-Unis et les pays européens se mobilisent également. La France achemine plus de 20 tonnes de matériel, un poste sanitaire avancé et 55 militaires de la sécurité civile française. À travers le pays et au-delà, la peine est immense. La diaspora libanaise est sous le choc. Partout, elle est présente à travers le monde, comme en France, où une amitié historique et indéfectible lie les deux pays depuis toujours. Les Libanais considèrent souvent l'ex-puissance mandataire de 1920 à 1943 comme leur seconde patrie. Pendant la guerre du Liban, dans les années 80, nombre d'entre eux se sont installés en France. La communauté libanaise est partagée entre tristesse et indignation.
Ça fait 30 ans que je suis en France. J'ai vécu toute la guerre, mais c'est pas comme ça.
Pendant la guerre, on savait qu'il y avait une bombe qui va exploser là, ou il y avait un monsieur qui va mourir là-bas.
C'était quelque chose de prévisible. Mais là, non. On n'attendait pas à ce qu'il y ait encore des explosifs dans un endroit comme ça. C'est un port quand même. Imaginons que c'est à Marseille. C'est inacceptable.
Parmi les victimes, on recense 2 Français tués et 90 binationaux blessés. Paris ouvrira une enquête pour homicide involontaire et blessures involontaires. Au Liban, où l'état d'urgence est déclaré, un jour de deuil national est décrété et une enquête est ouverte pour déterminer les causes de la catastrophe. Le nitrate d'ammonium stocké sans précaution dans l'entrepôt numéro 12 est à l'origine de l'explosion, certes. Mais qu'est-ce qui l'a provoqué, cette explosion? Le nitrate d'ammonium, qui se présente sous forme de sel blanc inodore, ne s'enflamme pas ni n'explose sans être mis en contact avec une autre substance incompatible ou par une très forte source de chaleur. Un comité d'investigation est alors créé par les autorités libanaises qui se donne 4 jours pour désigner les responsables et qui ordonne dans la foulée une assignation à résidence du personnel portuaire chargé de la surveillance des entrepôts. Pas de quoi rassurer les Libanais qui ne croient plus en la justice de leur pays. Alors, pour connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce 4 août 2020, Les Libanais demandent la mise en place d'une enquête internationale, ce que rejette le président Michel Aoun. Alors, la colère monte contre la classe politique accusée d'incompétence et de corruption. À la télé, Marcel Ghanem, un journaliste très populaire au Liban, s'en prend ouvertement au gouvernement.
Vous êtes corrompus, négligents, destructeurs, immoraux. Vous êtes des lâches. C'est votre lâcheté et votre négligence qui ont tué les gens. Vous, criminels, vous, sauvages, vous, ignobles, nous allons cracher 1000 fois sur vous.
Alors que les dégâts de la catastrophe sont évalués à 10 milliards d'euros, la destruction du port fait redouter une pénurie alimentaire. Coincé entre la Syrie en guerre et Israël qui a fermé ses frontières, le Liban est dépendant de ses importations maritimes pour se nourrir. 80% des produits alimentaires est importé et transite pour la plupart par le port. Et s'ajoute la question du stockage. Les silos, qui pouvaient contenir 120 000 tonnes de blé, sont entièrement détruits. Une pénurie de farine ne tarde pas à se faire ressentir. Déjà que le pays est à genoux, les Libanais redoutent le pire. L'explosion du port de Beyrouth ajoute une crise à la crise, car ce pays traverse depuis 2018 la crise économique la pire de son histoire, avec une inflation galopante et des prix qui ont quasiment doublé. Désormais, plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le pays se classe sinistrement au top 3 des pires crises sur la planète. Le directeur de la Banque mondiale pour le Moyen-Orient prévient. Seul un gouvernement tourné vers les réformes peut empêcher le Liban de sombrer davantage. L'inaction des politiques ne fait qu'enfoncer le pays un peu plus chaque jour dans la crise. Pour le politologue franco-libanais Karim Emile Bitar, c'est clair, le port de Beyrouth concentre les défaillances d'un État gangréné par le clanisme et la corruption.
Politiquement et administrativement, ce port est devenu un empire de la corruption, une véritable caverne d'Ali Baba, dominée par des partis politiques, avec énormément de passe-droits, énormément de pattes à graisser dès lors qu'il fallait faire la moindre formalité. Et c'est un peu comme ça qu'on en est arrivé là, l'absence de régulation, l'absence de transparence, une véritable mafia qui gérait ce port, et des ministres des transports, des ministres des douanes qui se sont succédés, qui n'ont pas fait le moindre effort pour rendre à leurs propriétaires ou exporter à nouveau ces matières toxiques.
Le jeudi 6 août 2020, 48 heures après la catastrophe, Emmanuel Macron se rend à Beyrouth. Une visite qui fait date dans l'histoire. Une journée surréaliste, disent certains. Le président français est le premier chef d'État étranger à se rendre au Liban. Il va d'abord voir les équipes de secours au milieu des destructions. Et dans l'après-midi, il se rend dans le quartier dévasté de Jemaïe à la rencontre des habitants sinistrés. L'image devient virale. Au milieu de la foule, avec une protection minime, le président français entend la colère des Libanais contre leur classe dirigeante et se pose littéralement en sauveur du Liban.
On est à bout de nerfs ! Le pays est en ruine ! Cette ligue nous a volé ! Je suis là aujourd'hui pour vous dire d'abord la solidarité, l'amitié du peuple français et aider le peuple libanais. Je suis là, et c'est mon devoir, pour vous aider en tant que peuple, pour vous apporter les médicaments, le soutien, de quoi vous nourrir et de quoi vous aider à reconstruire. Ce que je vous garantis, c'est que cette aide, elle sera transparente, elle ira sur le terrain, elle sera garantie pour qu'elle n'aille pas dans les mains de la corruption. Je veux que vous ayez un droit de regard sur cette aide.
Le bon samaritain français le martèle, sans réforme, pas d'argent, et promet de revenir dans un mois vérifier si les choses vont dans le bon sens. Un message adressé au pouvoir à Beyrouth, bien sûr, mais un peu comme si la France était encore protectorat. Accusé d'ingérence et de tenir un discours paternaliste par l'opposition en France, les Libanais, eux, attachés à leurs relations privilégiées avec notre pays, s'accrochent aux promesses d'Emmanuel Macron pour ne pas sombrer, c'est déjà ça, et accueillent le président en héros. Au cinquième jour de la catastrophe, entre désespoir et colère, ils sont des milliers à manifester dans la rue contre le pouvoir. Le peuple est à bout. Il n'y a plus de mazout. L'électricité est rare. L'eau potable n'arrive plus au robinet. Le Liban, qu'on qualifiait autrefois de Suisse du Moyen-Orient, n'est plus. Les Libanais ont perdu toute confiance en la classe politique qui s'est entièrement décrédibilisée. Leurs questions sur cette catastrophe annoncée et avérée demeurent toujours sans réponse. Alors revenons sur le fil des événements. Les 2750 tonnes de nitrate d'ammonium sont entrées en 2013 dans le port de Beyrouth à bord du Rosus, un cargo naviguant sous pavillon moldave, parti de Géorgie. Le transport économique maritime coche depuis longtemps toutes les cases de la mondialisation avec ses pavillons comme enfumage de première classe. Dans la version officielle en tout cas, la cargaison était destinée au Mozambique, mais le cargo aurait connu une avarie technique qui l'aurait obligé à faire escale dans la capitale libanaise. Une escale qui va s'éterniser. Entre-temps, sa dangereuse cargaison est transférée dans l'entrepôt 12 du port. Mais à qui appartenait-elle et à qui était-elle destinée, cette cargaison? Comment le nitrate a-t-il été incendié? Et surtout, pourquoi cette matière dangereuse est-elle restée plusieurs années dans le port, quasiment sans surveillance? Personne ne le sait. Tout le monde était au courant qu'une bombe à retardement dormait dans le port 6 années durant, mais personne n'a rien fait. On en connaît les conséquences. L'enquête, qui n'a toujours pas abouti, se résume à un vaste imbroglio politico-judiciaire, comme le Liban sait en produire, où chacun se repasse la patate chaude. Le premier juge a été démis. Le second, Tariq Bitar, subit des pressions et l'ingérence des politiques. Les blocages se multiplient. Une situation insoutenable pour les rescapés de la catastrophe et les familles des victimes qui réclament qu'une justice libre et indépendante soit rendue.
Pour le moment, dans cette enquête, l'instruction piétine. Le juge Tariq Bitar, chargé du dossier sur l'explosion du port, est bloqué depuis décembre 2021 par une ingérence du pouvoir politique. Marina Foudoulian a perdu sa sœur dans l'explosion. Elle est aujourd'hui porte-parole des familles des victimes.
Le juge Bitar a voulu arrêter des députés, mais notre gouvernement les protège. Ils ont commis le crime du 4 août et ils commettent un nouveau crime en choisissant de couvrir les responsables.
Le juge Bitar est aujourd'hui attaqué de toutes parts, menacé dans les médias, empêché de mener son enquête par des recours à répétition. Pour Marie-Claude Najem, l'ancienne ministre de la Justice à l'origine de sa nomination, le juge tiendra.
Je connaissais sa réputation de juge travailleur, intègre, indépendant.
Conflit d'intérêts majeurs, les plus hautes instances de l'État sont associées à la commission d'enquête et ceux qui se sont approchés un peu trop de la vérité ont été assassinés. La liste est assez effrayante, à commencer par le journaliste Lokman Slim, qui a longuement enquêté, qui a remué ciel et terre pour savoir qui a stocké le nitrate d'ammonium dans le port de Beyrouth. Il l'a payé de sa vie. Au moment où la cargaison de nitrate d'ammonium arrive dans le port de Beyrouth, la guerre en Syrie est à son apogée. Dans l'enquête sur la catastrophe menée par les États-Unis, au même titre que la France ou d'autres pays qui comptent des victimes de leurs ressortissants, le FBI révèle que l'explosion a été provoquée par 500 à 700 tonnes de nitrate d'ammonium. Si les 2700 tonnes avaient explosé, c'est toute la capitale qui aurait disparu. Alors, qui, entre-temps, a pu sortir les 2000 tonnes du Liban? Pour quelle destination? Et pour en faire quoi? Le Hezbollah, c'est notoire, a autorité sur une partie du port de Beyrouth. La milice chiite, alliée de Bachar al-Assad, contrôle de nombreux réseaux de contrebande d'armes ou de drogue entre le Liban et la Syrie. Alors faire passer des sacs de nitrate d'ammonium à la frontière lui était facile. Un produit qui sert à fabriquer des explosifs, comme les barils que le régime syrien balançait depuis ses hélicoptères aveuglément au-dessus des insurgés et des civils, c'est presque signé. Et c'est peut-être ce qu'a voulu révéler Lokman Slim, qui dénonçait, écoutez bien, un crime de guerre. Il avait déclaré à la presse avoir réussi à rassembler le puzzle mettant en accusation la Syrie, le Hezbollah et la Russie. Mais 2 semaines après ces révélations à la télé, le 4 février 2021, le journaliste est assassiné. Son corps, criblé de balles, est découvert dans sa voiture au sud du Liban, une région acquise au Hezbollah. Les Libanais sont sous le choc. L'épouse de Lokman Slim réclame justice.
Je veux que justice soit faite. J'ai besoin de savoir qui l'a tué et qui a donné l'ordre.
Avec l'explosion du port et l'exécution de Lokman, quelque chose s'est cassé. Non, on ne peut pas revenir à la vie normale. On ne peut pas revenir en arrière et laisser le jeu politique l'emporter. Il faut que quelqu'un rende des comptes.
Revenons sur la liste des attentats ciblés. Trois autres morts suspectes entrent les dossiers du port de Beyrouth. Joseph Scaff, un officier des douanes, chargé de lutter contre le blanchiment d'argent et le trafic de drogue, avait mis en garde contre le danger de la cargaison du Rosus. Il est retrouvé mort en 2017 dans un parking, le crâne fracturé. Et nous sommes 3 ans avant la catastrophe. Le corps de son collègue et ami, l'ex-colonel des douanes, Mounir Abou Dreli, est découvert sans vie chez lui en décembre 2020, le crâne fracassé lui aussi. 3 semaines plus tard, le photographe Jobedjani, qui aurait été en possession de clichés compromettants du port, est tué par balle devant chez lui. Tous avaient quelque chose à dire ou à montrer concernant le port de Beyrouth. Les enquêtes sont bâclées, vite refermées, ces crimes restent impunis. Alors, connaîtra-t-on un jour la vérité sur l'explosion du port de Beyrouth? Les responsables seront-ils jugés? Déterminé à poursuivre son instruction, le juge en charge du dossier, Tarek Bitar, n'a cédé à aucune pression politique ni aux menaces de mort qui auraient pu lui faire jeter l'éponge. Sa tâche est immense, les Libanais le savent. Ils savent aussi que l'aboutissement de l'enquête sur la catastrophe du 4 août 2020 marquera certainement une nouvelle ère au pays du Cèdre.
France Inter. Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, l'explosion du port de Beyrouth, dont nous parlons avec notre invité Ziad Majed. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes franco-libanais, politologue et professeur à l'Université américaine de Paris, donc vous vivez à Paris. Où étiez-vous le 4 août 2020? Comment avez-vous vécu cette journée que l'on décrit à juste titre comme apocalyptique?
Alors, je vis à Paris depuis 2006 et le 4 août 2020, j'étais dans le métro et c'est mon fils qui m'interpelle, qui me dit qu'il a lu sur les réseaux sociaux qu'une énorme explosion a eu lieu à Beyrouth. Tout de suite, le réflexe, c'était de commencer à appeler mes parents, mes sœurs, mes amis. Et comme à chaque fois qu'il y a une explosion ou une guerre ou une catastrophe au Liban, les lignes sont tout de suite saturées. Donc ça a pris du temps avant que je puisse parler avec mes amis et ma famille. Et là, on a commencé à comprendre l'ampleur de la catastrophe. Et certainement, comme beaucoup de Libanais aussi qui vivaient pas à Beyrouth durant ce moment-là, les traumas et les souvenirs et la mémoire assez... assez douloureuse, si vous voulez, commence à s'imposer et
à ressurgir.
Et donc, oui, c'était un moment extrêmement pénible et avec beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions.
Et vous l'avez vérifié au cœur de la diaspora libanaise de Paris?
Tout à fait, parce que les gens commencent à se contacter et ceux qui ont des amis, des proches, soit qui vivent dans la zone qui a été dévastée, soit du personnel médical ou des volontaires qui commencent à s'activer là-bas, mais même ici pour pouvoir envoyer de l'aide, pour parler, échanger. Tout le monde avait besoin aussi de se sentir entouré. Donc c'était, encore une fois, un moment qui rappelle la guerre civile, qui rappelle les séries d'explosions, d'assassinats, mais cette fois avec une dimension différente. Et je pense que ce qui a beaucoup touché les Libanais, outre l'explosion elle-même, puisqu'elle était, comme vous l'avez bien dit, l'une des plus grandes de l'histoire, si on parle des explosions non atomiques ou non nucléaires, ce qui a touché beaucoup les gens, c'est le fait qu'ils se sont senti chez eux et chez elles menacés. Le chez-soi était menacé. On peut être à la maison, on peut être à l'abri ou pensant que nous sommes à l'abri, mais une explosion pareille ait lieu avec des responsabilités, parce que ce n'est pas une catastrophe naturelle. Mm-hmm. Il y a des responsables, des corrompus, des personnes qui ont très mal géré, et les personnes qui circulent aussi dans la rue non loin du port, parce que c'est un accès très important vers Beyrouth, et la sortie de Beyrouth, surtout à 18h. Les gens qui travaillent à Beyrouth rentrent chez eux et chez elles, donc c'était terrible à tous les niveaux.
Et ça renvoie, est-ce que ça renvoie au danger d'un bombardement ? Parce que quand on est chez soi, on n'est pas protégé d'un bombardement.
Tout à fait.
Au contraire même.
C'est pour ça que les souvenirs de la guerre civile sont là de nouveau, parce que ça rappelle les bombardements aériens de l'invasion israélienne de 82. Ça rappelle les différents épisodes de la guerre civile où les bombardements touchaient tous les quartiers. Sauf que cette fois, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'invasion. Il y a un port qui est le cœur battant de la ville et de son histoire qui explose.
C'est pour ça qu'on dit la catastrophe de trop.
Exactement.
Au cinquième jour de l'explosion, les Libanais sont descendus dans la rue pour manifester leur colère, après l'émotion, contre le pouvoir corrompu. De quelle corruption parle-t-on ?
Alors, il faut savoir que quand cette explosion a eu lieu, le Liban connaissait déjà deux crises ou trois crises très aiguës. La crise politique, celle d'un système qui agonise depuis de longues années, qui n'arrive plus à gouverner. Il y a tout le temps des institutions paralysées. Ce qu'on appelle consociativisme au Liban, c'est-à-dire une forme de démocratie consensuelle entre les représentants des différentes communautés religieuses du pays. Ce système ne fonctionne plus. Il y a toujours des vétos, des gens qui refusent, des ministres qui se retirent du gouvernement, un parlement qui est là depuis des années, il n'y a pas eu d'élection. Après une longue crise présidentielle, le président de la République qui est en place est contesté par une grande partie des Libanais. Il y a eu des manifestations un an plus tôt réclamant des réformes, un changement de toute la culture politique. Donc il y a cette crise-là qui est là. Il y a la crise de la pandémie, avec un système de santé qui n'arrivait plus à répondre.
Double peine, vraiment.
Double peine. Vu le manque de personnel, de médicaments, etc. Et puis, il y a l'effondrement du système bancaire et l'effondrement économique du pays qui fait que beaucoup de Libanais se trouvent sans argent. Ils n'ont pas accès à leurs banques. Leurs dépôts ont disparu, entre guillemets. Et puis, cette explosion arrive. C'est comme si c'est un Beyrouth qui meurt. C'est comme si c'est une métaphore d'une fin, d'une histoire beyroutine, et c'est ça qui était très douloureux pour beaucoup de Libanais.
Et on rappelle quand même le montage institutionnel libanais qui était très pertinent, avec un président en principe maronite,
oui.
Un président de l'Assemblée chiite, je crois, les sunnites...
Premier ministre,
voilà. Bon, effectivement, ça tenait debout dans l'idée. Alors, mais c'était fragile.
C'était fragile. L'idée, c'était de ne pas exclure des communautés, et notamment les trois grandes communautés, chrétiennes maronites, musulmanes sunnites et musulmanes chiites. Sauf qu'avec le temps, cela affaiblit la citoyenneté, parce que les identités primordiales, les identités confessionnelles prennent le dessus, finalement, sur une identité libanaise. Ça mène aussi à un clientélisme, puisque chaque responsable protège les siens, étant donné qu'au niveau de l'administration, on a aussi des parités ou des quotas. Et puis, l'impunité, c'est le mot-clé. Le Liban connaît une impunité au niveau des violations, des crimes, du vol, de la corruption. Et jamais des responsables de mauvaise gestion ou corruption n'ont été traduits en justice. Et donc, ça crée déjà, au niveau de cette impunité, un énorme problème.
C'est une sorte de ruban de protection des corrompus, quoi. On ne les atteint pas.
Le grand corrompu protège les plus petits, et les plus petits ont toujours besoin de montrer leur loyauté politique au plus grand pour rester dans le système.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Immédiatement après l'explosion Ziad Majed, les Libanais ont fait preuve d'un élan général de solidarité. Est-ce que c'est propre au Liban, cette résilience du peuple libanais dont on parle toujours, c'est un mythe ou une réalité ?
Bon, je pense que c'est une réalité, même si aujourd'hui les Libanais n'ont plus envie de parler de résilience, comme s'ils sont destinés à être résilients et à faire le travail qu'un État doit en général faire et des responsabilités qu'il doit assumer. Mais c'est vrai que même avant la guerre, et puis tout au long de la guerre civile qui a duré 15 ans, il y a eu au niveau de la société civile un élan de bénévolat, de volontaires, une solidarité qui, à chaque fois qu'il y avait une catastrophe, s'exprimait. Et il y a un savoir-faire au niveau de cette société civile, comme si il y a un ADN libanais, si vous voulez, au sens où les gens se mobilisent, s'entraident, ils déploient un effort, une énergie, et ça a été le cas dès le 4 août, dès le soir, juste après l'explosion.
D'accord. Alors, c'est pas l'essentiel, mais revenons rapidement quand même sur la visite d'Emmanuel Macron. Elle a été critiquée par ses opposants en France. La France n'est plus le protectorat du Liban, ça va, quoi. Mais est-ce que les Libanais, eux, ont apprécié ? J'ai l'impression que c'était comme un pansement, comme quelque chose qui a pu soulager la douleur, quand même.
Alors, il est arrivé à Beyrouth 2 jours après l'explosion, et sa visite au lieu de l'explosion et puis au quartier Jemaisé était la première visite d'un responsable tout court. Il n'y a pas eu un seul responsable libanais, ni le président, ni des ministres, ni le premier ministre, ni le chef du Parlement. Personne n'a osé aller rencontrer les gens parce qu'ils savaient la colère et ils sont au courant de la haine aussi que les gens portent envers eux et les accusations d'être responsables de cette catastrophe. Donc, dans ce sens-là, l'arrivée d'Emmanuel Macron rompait avec
l'isolement
et le sentiment des gens qu'ils étaient abandonnés à leur sort et qu'ils avaient ils n'avaient que eux-mêmes pour régler tout un désastre et toute une ville défigurée. Sa première visite donc a créé une certaine sympathie, disons, et peut-être ils avaient besoin aussi de croire que le monde va se mobiliser pour eux, que la France allait aider économiquement, financièrement, médicalement, et que peut-être aussi il va y avoir une pression pour que justice soit faite, pour qu'une enquête internationale ou nationale sérieuse démarre. Sauf qu'il va y avoir une désillusion quelques semaines plus tard, parce que Emmanuel Macron va effectuer une deuxième visite, dans laquelle il est dans la logique politique, du réel politique. Il rencontre les mêmes responsables, les mêmes cadres politiques, des partis qui sont au pouvoir. Et tout ce qu'il avait dit avant sur l'aide qui va venir directement aux gens sans passer par les corrompus, tout ce qu'il avait dit concernant l'enquête, etc., est modifié. Parce que finalement, il est en train de négocier et de dialoguer avec les mêmes accusés d'être derrière l'explosion, dans le sens où leur corruption a mené à cette explosion-là.
Alors, au bout du compte, pensez-vous que cette enquête sur l'explosion du port va aboutir ? Vous ne lisez pas d'un boule de cristal, évidemment, mais d'un point de vue de l'analyse.
Oui. Alors, avec l'actuel gouvernement au Liban, je pense qu'il y a des chances que cette enquête puisse aboutir, parce qu'il y a une volonté politique aujourd'hui de montrer que ce gouvernement-là va rompre avec les anciennes pratiques et l'ancienne culture politique des gouvernements précédents, et que la justice doit être indépendante et donc doit faire son travail. Le juge Bitar a repris l'enquête maintenant, après toutes les pressions qu'il a subies dans le temps, et il essaye d'avancer. Et il y a des associations libanaises, il y a des avocats, il y a des juristes qui montent le ton et qui essayent aussi de faire pression, surtout qu'on a beaucoup d'éléments. Le problème aujourd'hui, c'est surtout qu'on n'a pas l'élément qui explique pourquoi l'explosion a eu lieu.
Oui.
Mais le nitrate d'ammonium qui l'a amené au Liban, pourquoi il est stocké, pourquoi il y a eu des quantités qui ont disparu, donc probablement qui ont été envoyées en Syrie. On connaît les noms des 3 hommes d'affaires syriens proches du régime Assad. Les 2 frères Khoury et George Haswani. On sait qu'ils ont tenté d'amener du nitrate ammonium directement à Damas, à travers le port de Latakia, mais ça n'a pas marché, vu les sanctions. Donc, probablement, c'était la raison pour laquelle ils les ont ramenés au Liban. Pourquoi on n'a pas transporté toutes les quantités de Beyrouth vers la Syrie ? Parce qu'en 2015, il y a l'intervention militaire russe, et le régime n'a plus besoin des barils explosifs qu'il larguait sur sa population et sur les villes syriennes, ce qui fait que le reste est stocké à Beyrouth dans des conditions terribles et sans aucune intervention de la part des autorités libanaises pour protéger le hangar numéro 12.
Et ça renvoie à un continuum depuis l'indépendance du Beyrouth, du Liban. Quand il y a un mauvais coup au Liban, Dire souvent la Syrie. Hein, et son rêve de grande Syrie qui engloberait le Liban.
Oui, je dirais il y a souvent le régime syrien et Israël. Le Liban a été envahi à deux reprises par Israël en 78 et en 82. Puis il y a eu la guerre dévastatrice de 2006. Et puis il y a eu la dernière guerre qui a fait autant de dégâts, si pas plus, que l'explosion de Beyrouth. Et il y a évidemment le régime syrien, le régime d'Assad, qui est enfin tombé il y a quelques mois déjà, oui. 3 mois. Peut-être que les choses vont s'améliorer aujourd'hui, y compris s'agissant de cette enquête, mais rien n'est sûr encore.
On a toujours l'impression, je crois vrai malheureusement, que le Liban a toujours été, dans cette région du Proche et du Moyen-Orient, une sorte de jouet des manœuvres des pays environnants. Hein. Et ça commençait d'ailleurs par Septembre Noir, qui venait de Jordanie, qui a déstabilisé le Liban. Et puis après, il y a la guerre civile, qui est liée. Hein. Oui. Après, il y a eu l'invasion d'Israël. Et puis, il y a eu l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafik Hariri, le 14 février 2005. Il était tué avec 21 autres personnes dans une explosion, un attentat à Beyrouth. Est-ce que c'est là qu'il y a eu l'autre cassure ?
Oui, certainement, parce que 2005 est un moment fondateur. Vous avez parlé de plusieurs moments de tension, de guerre civile, d'invasion du régime syrien et d'Israël. Il y a toutes les questions socio-économiques au Liban qui ne sont pas réglées. Il y a des clivages politiques comme confessionnels. Il y a des inégalités à tous les niveaux. Et un système qui n'arrive pas à gérer tout cela, avec la même classe politique au pouvoir, parfois depuis des décennies. Donc un vrai problème s'agissant de renouveler la classe politique, malgré tout le potentiel humain qu'il y a dans le pays. C'est plutôt le système électoral et le système politique. Mais s'agissant de l'assassinat de Rafik Hariri, on avait l'impression après 2000, parce que 2000, c'est à la fois la fin de l'occupation israélienne, du sud Liban, et en même temps c'est le début d'un processus qui devait mener au départ des troupes syriennes toujours présentes au Liban. Au milieu de cela, des dynamiques politiques, des énergies ont commencé, ont émergé pour réclamer des réformes, la fin de la tutelle syrienne, le fait qu'Israël n'est plus là, Hezbollah doit aussi commencer à renégocier son positionnement au Liban. Et Hariri est assassiné. Oui. Et depuis, on connaît une série de crises politiques, économiques et sécuritaires, avec en plus récemment la guerre israélienne.
Bien, bien, merci infiniment, Ziad Majed.
Merci à vous.
Au revoir. Et Affaires sensibles aujourd'hui, l'explosion du port de Beyrouth, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Paola Collin.